Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après l'émission comme d'habitude. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire, c'est-à-dire vous-même. Aujourd'hui, nous recevons le Cabreton Aquitaine Aquatique, pardon, Scaphandre Club. Nous avons Thierry Buisson, président dans notre studio. Laetitia Béguet, membre du bureau et biologiste. Ça, on va en parler, c'est très intéressant. Et nous avons un petit nouveau aussi. Nous avons Marc qui fait partie de l'équipe pour quelque temps. Il est stagiaire. Et donc, aujourd'hui, il va me seconder sur cette émission. Bonjour tous les trois, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Philippe, ça va très bien.
Bonjour Jean-Philippe, tout va bien.
Bonjour, tout va bien.
Très bien. Alors, on va passer cette petite émission ensemble. On va écouter le Flash Info national et international d'abord. Et ensuite, on passera un petit peu de temps à découvrir votre activité, votre club. Et on parlera de la mer, bien entendu. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Et voilà, c'est parti. Alors, comme d'habitude, à chaque début d'émission, on commence par découvrir un petit peu qui sont nos invités, qui nous racontent un petit peu la trajectoire qui les a menés ce jour à ce micro. Et bien entendu, on va commencer par Laetitia. C'est normal, c'est comme ça que ça marche en général. Laetitia, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur vous.
Ouais, et du coup, moi, je suis étudiante en Master 1 d'écologie marine à Angers. J'ai d'abord fait mes premiers pas dans la plongée avec le casque, donc il y a 7 ans maintenant, pour un niveau 1. Puis l'accueil était si chaleureux que j'ai décidé d'y rester et de passer tous mes étés dans les Landes pour apporter mon bénévolat à cette association. À côté de ça, du coup, j'ai continué mes études parce que moi, mon souhait, c'était de travailler dans la biologie marine. Et finalement, je me retrouve en stage dans une association des Landes qui travaille sur de la plongée scientifique pour apporter son expertise à côté du gouffre, en fait, de Cabreton.
Bien sûr. Voilà. Alors, c'est quoi vos ambitions professionnelles vis-à-vis de vos études? Vous avez déjà une idée, un vecteur, un point à l'horizon que vous contemplez?
Alors moi j'aimerais bien travailler dans la conservation des espèces marines et en alliant ça avec de la plongée scientifique, donc en étant vraiment sur le terrain et potentiellement, c'est encore en réflexion, mais potentiellement faire une thèse à la fin de mon master si toutefois un sujet me plaît.
Bien sûr, bon, c'est un métier passion. Hein.
Exactement.
Oh, mais c'est bien, c'est très bien. Ben, merci beaucoup, maintenant on va se tourner vers Thierry qui va nous parler un petit peu de lui, s'il veut bien.
Oh, avec plaisir. Déjà, merci à vous de nous recevoir. Ça, c'était vraiment important. Merci beaucoup à Souvenir FM. Ça a commencé... Alors, c'est vrai que je suis né à Cabreton, à Bayonne. Mes grands-parents étaient là et l'océan était là. Et puis un jour, j'avais 16 ans. Il y a eu une projection de diapositives à l'époque, c'était des diapositives, sur le milieu marin. Et on avait la possibilité de gagner un baptême gratuit. Voilà. Et donc j'ai fait ce baptême. Ça a été très très difficile pour moi. J'étais pas habitué à toutes ces machines, à ces systèmes de respiration sous-marine, ces détendeurs, etc. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Et j'ai commencé effectivement ma formation de retour à Bordeaux, où j'étais avec mes parents. Et puis ensuite à Cabreton, et tout ça, c'était effectivement en 1976, puisque le casque, le Cabreton Aquatique Scaphandre Club, a cette année 60 ans.
Ah oui,
j'ai fait le baptême au moment où j'ai commencé. Et puis de fil en aiguille, eh bien, au moment de mes études, j'ai continué ma formation de plongeur certifié, initiateur, moniteur, pour en faire pendant quelques années mon métier, en partant un peu partout dans le monde entier. Et puis voilà, de retour à Cabreton, j'ai repris la présidence du club depuis 2018.
D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour cette trajectoire. Et bien sûr, il va pas y couper. Hein. C'est Marc qui va se présenter un petit peu, puisque voilà, oui. Les auditeurs vont le découvrir.
Bonjour à tous, effectivement. Donc, je suis Marc Barbeza. Je suis l'heureux stagiaire depuis un mois ici à la radio de Souvenir FM, où je découvre petit à petit les joies de la radio. Et donc, de fil en aiguille, je mets petit à petit la main à la pâte et je pose ma voix au micro pour que les auditeurs me découvrent un petit peu. Et puis aujourd'hui, je vais avec joie participer à cet échange sur l'exploration des profondeurs de l'océan.
Voilà.
Voilà.
Très bien, merci Marc. Eh bien voilà, on va découvrir votre club. Hein. Donc vous disiez 60 ans. Donc
oui.
Il s'en est passé des choses en 60 ans, que ce soit en termes de personnes, de matériel, d'objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu de ce club?
Tout à fait, oui. 1976, ce sont des passionnés. Et il y avait eu une demande effectivement au niveau de l'État, puisqu'il y a eu la création du port de Cabreton en 1975, et il y avait une obligation d'avoir des plongeurs. Donc après, ce sont des passionnés. Je sais qu'il y avait beaucoup de plombiers
ouais.
qui se sont un peu unis entre eux. Oui, c'est toujours de la plomberie, un petit peu, remplir des bouteilles, des tuyaux, des respirations. Et puis tout doucement... Bah, il a fallu avoir des formations. En 1976, il y a peu de formateurs encore à l'époque. Il y a peu de centres comme existe aujourd'hui à Hendaye, un gros, gros centre fédéral de la Fédération française d'études et de sports sous-marins dont nous sommes effectivement délégataires. Et puis tout a évolué. C'était l'époque où on voit un petit peu, comme avec le commandant Cousteau, ces détendeurs avec deux tuyaux qui sont peut-être parfois fragiles, qui sont un petit peu pas toujours pratiques, etc. L'évolution se fait, on voit aussi avec des gens qui partent, on les voit dans les films, ils sont simplement avec des sangles, et puis arrive effectivement ce qu'on appelle le gilet stabilisateur, dans lequel on va pouvoir mettre de l'air à l'intérieur, qui va être une meilleure sécurité, donc ça veut dire encore des personnes qui effectivement ne pensaient pas pouvoir faire de la plongée, qui était plus ou moins, entre guillemets, réservé plus ou moins à des militaires, un peu à l'époque, pour venir effectivement vers la plongée loisir, donc avec l'évolution qu'il y a eu au niveau de tout le matériel. Les combinaisons aussi, qui étaient quand même des combinaisons néoprènes, oui, mais très rigides, et on voit aussi bien les combinaisons qui sont devenues beaucoup plus souples aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est ça, tout ça a été maillé d'évolution technologique, forcément. Alors, vous avez cité le commandant Cousteau, dont on a parlé aux antennes, on peut pas l'éviter, hein. C'est vrai que ça reste quand même un emblème, hein. Quelqu'un qui qui a vulgarisé, qui a mis au niveau du grand public. Tout à coup, on a découvert qu'il y avait un autre monde, hein, sous l'eau, qu'on n'avait pas forcément les moyens d'arpenter soi-même, et que c'est lui qui a mis tout ça en image. Cette fameuse Calypso aussi, voilà. Donc c'est vrai, ça fait partie des souvenirs aussi, mais voilà, je pense qu'il a dû donner l'inspiration à beaucoup de gens qui ont suivi ses traces.
Certainement, même s'il a appelé effectivement son film qui a eu un prix à Cannes, Le Monde du Silence.
Voilà, ça fait beaucoup de bruit.
C'est que sous l'eau, il y a beaucoup de bruit.
Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est ça le paradoxe. Et donc, alors, ce club, il contient combien d'adhérents et qu'est-ce qui s'y passe?
On est environ, alors ça dépend les années, effectivement, entre 70 et je dirais une centaine de licenciés et adhérents. Il peut y avoir des gens qui viennent un peu de la France entière, qui viennent passer leurs vacances un petit peu dans la région. Donc là, ils vont devenir adhérents, effectivement, comme on est un club associatif. Donc là, on peut monter jusqu'à 200 durant l'été, de façon à pouvoir venir découvrir les fonds sous-marins autour de Cabreton et au Segor.
Oui, c'est vrai, comme on est dans une région hautement touristique, hein, Cabreton, évidemment, forcément, il y a une forte saisonnalité dans vos activités.
Oui.
Voilà. Donc, mais du coup, il faut aussi gérer peut-être aussi le risque du débutant. Il dit, le touriste qui arrive, chouette, c'est super, mince. Mais il faut quand même découvrir avant des règles de sécurité, des usages qui sont un peu particuliers auxquels les gens ne sont pas forcément préparés dans leur imaginaire.
Oui, mais enfin, ça est tout à fait bien structuré par la fédération. Donc, c'est comme tout, hein. Je veux dire, avant de danser, on apprend à marcher. Donc là, on va apprendre à plonger et on va faire déjà un petit tour sous l'eau. Ça va être un baptême qui est à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 100 ans, si on a envie. Et qui va être suivant l'âge par rapport à une profondeur. Donc tout ça est bien structuré. Si la personne, elle a 8 ans, l'enfant a 8 ans, entre 8 et 10, il ne pourra pas descendre en dessous de 1 mètre. Donc voilà, c'est vraiment le début de la plongée. Mais au moins, il respirera sous l'eau, même à 50 cm au-dessus. Et pour l'adulte, lui, il pourra descendre jusqu'à 6 mètres.
Bon, c'est vrai que l'eau, c'est un milieu particulier. Je crois que, enfin, j'allais dire qu'on en vient, alors au sens d'évolution des espèces, mais aussi en tant que mammifère. Hein, dire le milieu marin. D'ailleurs, mer. Bon, mer et mer, ça et ressemble. Oui. Hein, il y a pas beaucoup de différence entre ces deux mots.
9 mois.
Et oui, 9 mois. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que je pense quand même la plupart des gens et les bébés, d'ailleurs, les bébés nageurs, etc. Il y a un attrait particulier pour ce milieu-là, je crois, pour la plupart des gens. Et donc ça, c'est une chose que vous devez ressentir. Les gens vous disent aussi, vous voyez des gens qui sont, comment dire, qui sont pas vraiment aguerris, pas forcément bons nageurs, mais ils ont cet élan, cette envie.
Tout à fait, oui, il y a des gens qui effectivement peuvent être légèrement aquaphobes et avoir vraiment envie. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on va y aller doucement, on va peut-être pas mettre la bouteille sur le dos tout de suite, on va simplement respirer peut-être en surface avec ce qu'on appelle le détendeur. On peut peut-être même commencer avec le pâle masque tuba, on va voir un petit peu tout ça, car nous ne sommes pas spécialisés, je dirais, vraiment que dans la plongée bouteille, avec les bouteilles. Il y a aussi, effectivement, on a aussi des monitrices, des moniteurs au niveau de l'apnée, où on peut descendre en apnée profondément aujourd'hui. Et les gens qui auront cette petite partie un peu aquaphobique, on va les guider tout doucement. Je rappelle aussi qu'un baptême, c'est pas comme un baptême, je dirais, de surf où il peut y avoir plein de monde. Là, c'est un moniteur ou une monitrice et un élève, pas plus.
D'accord.
Donc il y a vraiment une attention profonde qui est faite à la personne et on va pouvoir peut-être remonter, voir qu'est-ce qui bloque un tout petit peu au niveau du corps. On a aussi eu des approches qui sont là-dessus pour pouvoir effectivement venir plonger un peu plus profondément.
D'accord. Très bien. Eh ben, c'est déjà le moment de faire notre première petite pause. On va écouter un petit peu de musique. Évidemment, le thème va rester le même comme fil rouge tout au long de la journée. D'autant plus qu'on est le jour dédié aux poissons. Hein, le 1er avril, on se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà de retour après un petit Belle Île en mer. Hein, enfin, on reste dans le thème. Alors, continuons à découvrir votre club et ses activités. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un club de plongée? Alors, il y a l'information déjà. J'ai bien vu qu'il y avait, c'est important la transmission.
Oui, exactement. Le Cabreton Aquatique Scaphandre Club, le casque, permet aux gens, effectivement, de découvrir la plongée. Alors, je peux dire d'ores et déjà qu'il y aura les Fêtes de la mer à Cabreton le 13 et 14 juin 2026. Et durant ces Fêtes de la mer, des baptêmes gratuits de plongée sous-marine sont organisés aussi bien par notre club que les deux autres clubs. Qui sont aussi présents à Cabreton. Et il y a aussi la fête du Chipiron le 12 et le 13 septembre 2026.
Ça, les gens du coin connaissent ce moment, oui.
Voilà, tout à fait. Et les inscriptions se feront, vous aurez toujours un papier via la mairie, effectivement, ou des numéros de téléphone qui vous seront affichés. Donc ça, c'est le baptême. Les gens découvrent donc la plongée, s'arrêtent là, peut-être, en disant, bon, bah, écoutez, pour moi, j'ai fait le baptême, mais c'est pas trop quelque chose que je recherche. Et puis il y a d'autres personnes qui disent, ah mais moi je voudrais aller un peu plus loin parce que j'ai l'habitude de partir un peu en Méditerranée ou dans des mers un peu plus chaudes, etc. Et j'aimerais savoir comment on peut continuer. Donc là, le premier niveau s'appelait effectivement le brevet élémentaire sur cette partie-là. Et va permettre, aujourd'hui c'est le niveau 1, voilà, il a été découvert, on va pouvoir avoir entre 4 et 6 plongées ou plus, suivant effectivement l'aquaticité des personnes. Il y a des gens qui vont me dire, ah mais moi je suis dans l'eau tout le temps, je fais du surf, je suis maître nageur, etc. Et c'est vrai qu'avec quelques leçons, ça va suffire pour apprendre la technique, la sécurité, qui va avoir ce niveau 1. Ce niveau 1 va lui permettre de faire quoi? De descendre à 20 mètres, accompagné d'un moniteur, dans toutes les mers du monde. Donc c'est déjà effectivement quelque chose d'intéressant. Le niveau 2 va nous permettre effectivement, alors entre le niveau 1 et le niveau 2, vous avez le PA12, qu'on appelle le plongeur autonome à 12 mètres, va permettre à la personne de descendre à 12 mètres avec quelqu'un qui soit du même niveau, sans moniteur. Donc la formation se fait aussi sur 5-6 plongées.
D'accord.
Ensuite on va passer le niveau 2, on va faire les mêmes exercices qu'on aura fait au niveau 1, qui sont les exercices jusqu'à 6 mètres. Et on va faire les mêmes exercices, mais à 20 mètres. Ça va permettre à la personne d'être autonome à 20 mètres avec quelqu'un du même niveau et de pouvoir descendre avec un moniteur jusqu'à 40 mètres. Le niveau 3, lui, va permettre, pareil, un peu plus loin, jusqu'à 60 mètres. Et à partir du niveau 2, les gens vont dire, ah, mais Vous êtes un club associatif, vous m'avez donné des choses, mais moi, je voudrais bien reverser ces choses que vous m'avez offertes. Mmh. Eh bien, dans ces cas-là, on peut passer l'initiateur qui est organisé au niveau du comité départemental, aussi bien à Dax, il y a deux clubs de plongée à Dax, qui est organisé, et ça permettra effectivement de commencer à pouvoir faire des baptêmes, à faire des petites formations pour des niveaux 1, et la personne va pouvoir donc initier jusqu'à 6 mètres ses premiers élèves, voilà, tout doucement, comme d'habitude.
Oui.
Après, il va pouvoir passer le monitorat, peut-être, qui va être devenir un moniteur qui va pouvoir enseigner jusqu'à 40 mètres, et puis après, il y a la deuxième étape, suprême, effectivement, du moniteur qu'on appelle le moniteur fédéral deuxième degré qui va pouvoir enseigner jusqu'à 60 mètres.
D'accord. Alors, vous parliez d'exercice. Quel type d'exercice on fait quand on apprend la plongée, en fait ?
Tout simplement. Admettons qu'effectivement vous souriez un peu trop sous l'eau, vous avez un masque, vous avez un petit peu de buée, vous souriez, puis il y a un peu d'eau qui rentre. Vous êtes à 4-5 mètres de profondeur, vous n'allez pas remonter à la surface pour pouvoir effectivement le vider. Non, il y a des petits exercices pour savoir le vider sous l'eau. Ce n'est pas très compliqué, on inspire par la bouche, on appuie en haut, on souffle par le nez. Mais faut-il encore avoir ce qu'on appelle cette dissociation entre le nez et la bouche ?
Oui.
C'est toujours pareil. Il y a des gens pour qui c'est inné. Et puis d'autres personnes, ça va prendre un peu plus de temps, c'est pas grave, on est là, on a le temps. Hein. L'eau est un peu fraîche l'hiver, donc on peut s'entraîner en piscine, on peut voir, etc. Un autre exercice, ça peut être simplement de savoir enlever son détendeur, parce qu'on est sous l'eau, on plonge avec de l'air, hein. Nous on ne plonge pas avec de l'oxygène. Donc on plonge avec de l'air, c'est de l'air comprimé, mais qui a été complètement filtré, qui a été déshydraté. Donc c'est assez fou, on est sous l'eau. Et on a soif. Donc, pouvoir se rincer la bouche un petit peu, enlever le détendeur, pouvoir le remettre. Exercice de sécurité, savoir donner un détendeur à son voisin. On ne plonge jamais tout seul, on est toujours en binôme.
Oui.
Donc, ça permet de donner de l'air si la personne a besoin d'air. Un autre exercice, ça peut être pour justement le plongeur autonome à 12 mètres, ça peut être la personne fait un petit malaise, elle a des crampes, elle se sent pas bien, ça va permettre de l'assister pour remonter d'une dizaine de mètres jusqu'à la surface pour demander au bateau de venir le chercher.
Il y a aussi un vocabulaire, il y a un certain langage des signes, etc.
Tout à fait, il y a un langage des signes. C'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas parler. Ouais. Donc, soit on emmène des tablettes et on peut écrire, mais c'est vrai que le plus facile... c'est vrai que les gens arrivent souvent, ils nous font le pouce levé en disant « Waouh, c'est génial !» Et nous, le pouce levé, en fin de compte, alors on voit ça un peu dans l'aviation aussi, c'est vrai que c'est OK, tout va bien. Et nous, ça veut dire « remonte ».
Voilà. Là,
le OK, hein. Vous le trouverez partout, c'est le petit rond qu'on fait entre le pouce et l'index.
Oui, comme ça, d'accord,
voilà,
le OK. C'est vrai que...
J'ai froid, ça peut être plein de petits, petits signes. Il y a des signes internationaux et puis après, il y a des signes qu'on peut trouver au fur et à mesure.
C'est vrai qu'il y a des signes digitaux qui sont universels, mais ceux-là, on ne peut pas les utiliser. En tout cas, à la radio, ça ne se verra pas au moins. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont clairs, sans équivoque. Marc, tu avais des questions par rapport aussi un peu à ce statut, un statut particulier par rapport à l'eau.
Oui, moi je fais partie de cette catégorie de personnes, Jean-Philippe, qui sont, alors je sais pas si on peut dire phobiques, mais en tout cas qui sont vraiment pas à l'aise, alors pas forcément dans l'eau en tant qu'élément, mais j'ai peur de l'abîme, vous voyez, j'ai peur du noir, du fait de pas voir ce que j'ai sous les jambes quand je suis dans la mer, et donc je me demandais comment vous gériez ça dans votre club, si vous avez donc des novices ou des gens, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, qui sont... pas rassuré, quels sont les leviers que vous manipulez pour essayer de vulgariser cette pratique qui n'est pas instinctive ou en tout cas qui n'est pas rassurante pour tout le monde, quoi. Voilà.
Laetitia, tu vas dire un petit mot
expérience
personnelle.
Je fais partie des personnes qui étaient très à l'aise dans l'eau quand j'ai commencé, quand j'ai passé mon niveau 1. Et quand j'ai passé mon niveau 2 et la première fois que je suis passée à 40 mètres, j'ai fait une panique sous l'eau parce que justement j'ai vu le noir et que je ne savais plus comment gérer. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a été assez simple, c'est que on a repris toutes les techniques, mais sur des profondeurs où je voyais sous l'eau, où je voyais les fonds. Et en fait, petit à petit, on prend le temps. Je parle de mon expérience à moi, mais ça arrive avec tout le monde quand les gens sont assez paniqués sous l'eau. Nous, on a la chance de pouvoir plonger dans le canal qui a une très faible profondeur.
Et oui.
Et donc, ça rassure les gens de pouvoir voir le fond. Et en fait, on peut suivre le fond donc de la surface jusqu'à 9 mètres de profondeur à marée basse. Donc, ça permet aussi de rassurer les gens. Et au fur et à mesure, on peut se permettre de partir en mer et d'aller plus loin. Et aussi de prendre plus de temps aussi sur les descentes.
Très bien. Ben merci. Bon, là, ça va rassurer déjà des gens. Voilà. On va faire un petit saut vers le flash info local. On retrouve un petit peu de musique et puis on retrouve nos invités tout de suite après. Une nouvelle de retour avec nos invités. Alors, on va parler un petit peu de l'océan. Alors, c'est vrai, des fois, on parle la mer, l'océan. C'est sûr, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à dire la mer souvent. Bon, voilà, c'est comme ça. Et la mer n'existe pas, disait Erdmingo. Mais bon, c'était une manière de présenter les choses. Alors, parlons-en d'ailleurs. Puisqu'on a on a la chance d'avoir une biologiste, la pauvre, on va la mettre en contribution. Et comment va-t-elle, notamment, bon, celle qui nous intéresse le plus, évidemment, celle qui s'est proche de chez nous, comment va-t-elle, cet océan? Comment va-t-il?
Bah, cet océan, il va pas si bien que ça, mais ça va pas aller en s'arrangeant. C'est aussi pour ça que j'espère faire ce métier d'être dans la conservation pour prendre conscience. Faire prendre conscience aux gens de l'urgence climatique dans laquelle on vit maintenant et dans laquelle il est important de protéger les espèces, protéger tout l'environnement, que ce soit marin ou terrestre, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'océan est la plus grande surface de la Terre qui permet de capter énormément de CO2 et donc qui permet aux humains comme nous tous de pouvoir vivre encore à ce jour et pouvoir respirer un air respirable.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui restent focalisés sur la chlorophylle pour la production d'oxygène, les plantes, mais il faut savoir qu'en fait, les dernières études ont montré qu'en fait, pas du tout. Je crois que les créatures marines sont bien plus contributrices qu'on ne le croit, hein, parce qu'il y a beaucoup de zooplancton, etc. Hein, donc il y a des animaux, il y a des plantes, des fois il y a des créatures qui mélangent un peu les deux, d'ailleurs, un peu bizarre, des fois. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Alors, on va parler aussi d'un événement que vous allez, auquel vous allez participer, hein, qui le 18 juillet, alors justement, sans parler d'environnement, c'est une chose que vous avez faite déjà plusieurs fois, c'est une journée de collecte de déchets au canal, mais qui est aussi l'occasion de parler de tout ça.
Exactement, cette année, donc le 18 juillet 2026, ce sera la troisième édition de notre journée de sensibilisation et de collecte de déchets. Il y a 3 ans, en fait, on en a parlé avec une amie du club, où on s'est dit que quand on plongeait, on voyait quand même pas mal de plastique ou même de déchets humains dans l'eau, et on s'est dit que c'était une bonne occasion de sensibiliser les gens à ce problème-là, en sachant que Cap-Breton est quand même une ville très touristique l'été.
Forcément.
Donc forcément, les mauvais comportements, on va dire, s'accentuent aussi à ce niveau-là. Donc on a organisé cette journée qui a fait un carton, qui a été très bien accueilli par la mairie, par les touristes, par les bénévoles aussi du club. Et donc, on l'a réitéré l'année dernière et cette année encore. C'est le but d'amener les plongeurs confirmés sous l'eau pour, du coup, ramasser les déchets dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller et de pouvoir amener les gens à pied aux alentours du canal et de pouvoir leur expliquer un petit peu plus en détail pourquoi est-ce qu'il faut faire ce genre de geste et pourquoi c'est important de préserver la biodiversité.
D'accord. Alors c'est vrai que nous, quand on plonge pas, on se rend pas compte de la proportion de cochonneries qu'il y a sous l'eau, hein, parce que même si la mode sur les réseaux sociaux, c'est la pêche à l'aimant là pour récupérer des trucs dans les rivières, etc. Voilà. Mais voilà. Donc est-ce que quand on plonge, justement, on voit beaucoup de plastique qui est sur le fond plus que sur les abords? Comment c'est?
Eh ben, c'est assez paradoxal parce que on a l'impression de peut-être pas beaucoup voir de plastique ou de déchets dans nos alentours, mais en fait le plastique qui est le plus présent, c'est le microplastique, donc celui qu'on voit pas à l'œil nu, qui est présent absolument partout, dans tous les poissons, dans tout l'océan ou même sur Terre, hein, bien évidemment. Donc c'est aussi très délicat, mais plus on limite en fait nos déchets en mer, plus on limite l'accentuation de ces microplastiques.
Mmh. Oui, bah voilà, le problème des plastiques, c'est vraiment c'est en amont qu'il faudrait traiter le problème, puisque des associations telles que les vôtres qui sont sensibilisées à l'océan même, hein, au rivage, etc., tous finissent par organiser en fait des séances de ramassage, parce qu'ils sont sensibles à ce milieu-là, que ce soit le surfeur, le pêcheur, on a les camélidés d'Atlantique qui utilisent des camélidés pour transporter les déchets, les ramasser, etc. Voilà, tous les gens qui sont attachés à l'océan se rendent compte qu'il y a un sacré boulot à faire.
Complètement.
Et alors les microplastiques, il faut savoir que c'est vrai que même dans les grandes les montagnes, l'Annapurna, etc., c'est fini en fait. Il n'y a plus d'endroit sur Terre qui soit à l'abri des microplastiques. On a longtemps cru que le cycle de l'eau était exempt de ce problème. Eh bien, mauvaise nouvelle, pas du tout.
C'est ça.
Et donc, comme la mer est en dessous, au niveau de la gravité, tout finit par atterrir dans la mer. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est toujours valide, c'est toujours bon de manger du poisson? Enfin, je veux dire, du coup, si on sait qu'ils sont vraiment à la fin de cette chaîne un peu pas terrible, qu'est-ce qu'il en découle pour la santé, en fait, des êtres humains?
Je pense qu'il y a une façon de consommer qui doit être plus responsable au niveau de notre consommation personnelle. Déjà, choisir en fait les techniques de pêche qui sont le moins invasives pour l'environnement, c'est le plus important. Mmh. Par exemple, éviter tout ce qui est pêche au chalut, parce que ça détruit complètement le fond des océans, mais plus privilégier les pêches à la ligne ou les pêches occasionnelles, si vous avez l'habitude de pêcher aux abords du canal ou par exemple à l'estacade. Et bien évidemment, y a, comme les légumes, il y a aussi des saisons pour les poissons. Et donc, il faut aussi se renseigner, savoir quel poisson est consommable à cette période, si elle est en période de reproduction ou si l'espèce est en voie de disparition ou en danger et que malencontreusement, elle peut se retrouver sur des étals de poissons. C'est aussi important d'être conscient de ça pour être plus responsable dans nos choix de consommation.
Très bien. Tu veux dire quelque chose, Marc ?
Oui, je voulais rebondir parce qu'avant de potentiellement les manger, les poissons, on les observe ou on les voit, et géographiquement, il y a des aires de répartition différentes. Vous concernant, là, à Cap-Breton, bon, il y a le gouffre et le canal. Quel type de faune marine on retrouve le plus régulièrement dans ces endroits ?
Alors, dans le canal, on a la chance d'avoir une biodiversité qui est quand même très florissante. On a des poulpes, on a des araignées de mer, on a des seiches. Si on a de la chance, on peut voir certains hippocampes qui sont en déclin malheureusement.
Oui.
On peut voir tout type de poissons, des dorades royales, des bars. On a des congres aussi qui sont présents. Et dans le gouffre, on a...
On change d'ambiance, j'imagine, d'atmosphère, mais...
Eh bien, oui et non. Ouais. Dans le gouffre, exactement, on garde cette biodiversité parce que, du coup, on a des courants qui permettent d'avoir beaucoup de nutriments et donc une croissance accrue de ces espèces. Mmh. Donc, on va retrouver du corail en profondeur aussi, qu'on appelle les coraux d'eau froide. On peut retrouver des éponges, on retrouve des plus gros poissons. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'on peut retrouver, par exemple, des cétacés ou des mammifères marins plus gros, qui sont plus attractifs, on va dire.
Oui, voilà, pour le plus grand public.
Pour le grand public.
C'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit peu le béguin pour les cétacés, hein, c'est comme ça, voilà, les baleines, alors, les dauphins. Alors, est-ce que c'est dû à tous les films, à cette espèce d'aura cinématographique essentiellement américaine, on va dire, entre Flipper, le dauphin, Moby Dick, que sais-je, voilà. Après, bon, quelque part, ce sont aussi peut-être pas nos frères, mais nos cousins, quand même.
Ouais,
biologiquement, c'est des mammifères, comme nous.
Oui, c'est sûr.
Qui ne peuvent pas respirer l'eau non plus.
Non, c'est vrai.
Les mammifères marins, donc voilà, c'est peut-être des... voilà. C'est vrai qu'il y a des mesures, notamment tous les ans, il y a cette césure, là, de coupure de pêche pendant un mois ou deux, qui permet... je crois que les tests démontrent que ça a été bénéfique sur les populations des dauphins, je crois. Donc, voilà. Mais on a la chance aussi d'avoir un super port de pêcheurs et un supermarché aux poissons à Cap-Breton, qui est vraiment qui fait des rares endroits où on peut directement acheter la pêche des pêcheurs sans passer par une criée. Ça, c'est quand même une chance. Hein, voilà. Désolé pour les poissons. Voilà. On va faire une dernière pause et on attaquera la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et nous voilà, dernière partie de cette émission avec nos invités, donc le Cap Breton Aquatique Scaphandre Club. De quoi allons-nous parler encore? Vous avez d'autres actualités à parler, sûrement, des choses auxquelles vous participez. Vous avez parlé du... À Cap-Breton, il y a une fête sur le port. Vous avez parlé aussi des chipirons.
Fête de la mer, fête du chipiron. Voilà. Fête de la mer le 13 et 14 juin. Fête du chipiron le 12 et 13 septembre. Où il y aura des baptêmes donc gratuits qui seront organisés par les clubs de plongée. Le 18 juillet, effectivement, organisé par Laetitia, la journée de sensibilisation et de ramassage des déchets le canal et à l'extérieur du canal. Le 18 juillet à Cap-Breton.
Bien sûr.
Et puis, voilà, on offre aussi à vos auditeurs.
Voilà, c'est ça. Écoutez bien, chers auditeurs.
Un baptême de plongée gratuit à partir de 8 ans. Mmh. Et après, ce sera. Je laisse la direction de Souvenir FM, effectivement, vous faire gagner, vous. Poser quelques questions sur différentes choses pour un baptême gratuit.
Post Facebook à ce sujet, c'est David qui en parlera aussi des auditeurs, hein, c'est lui qui fait le speaker. Voilà, et ensuite, on parlait tout à l'heure de cette journée de collecte de déchets. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une caractérisation des déchets, ça veut dire un tri. Est-ce que ça veut dire que déjà, vous êtes déjà dans la recherche scientifique, vous avez des données que vous allez récupérer à chaque fois qu'ils sont remontés vers des gens qui centralisent?
Ouais, en fait, nous, on inscrit nos collectes sur le site de Surfrider, qui récupère après les données en fait, qu'on met. Donc on donne le jour, on donne le lieu, et ensuite on caractérise les données. Donc on fait... dépeser du plastique, des métaux, du textile aussi, et des déchets de pêche.
Oui.
Et donc on remet tout ça sur le site et ça leur permet à eux de collecter des données et ensuite de pouvoir travailler dessus librement.
D'accord. Alors c'est vrai qu'en termes de déchets, moi au début j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. On trouve des fois à certains endroits des petits disques qui ressemblent à des dessous de peau en plastique. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? En fait j'ai découvert que c'était ce qui était utilisé pour faire les essaims des bébés huîtres, je sais pas comment on les appelle.
Exactement, si, c'est ça.
Et c'est du plastique.
Exactement.
Et c'est fâcheux ça quand même.
Eh ben en fait c'est encore une fois paradoxal, mais pour capter en fait les larves d'huîtres, on les met dans l'eau au bon moment, donc ça s'appelle un collecteur. C'est toute une rangée en fait de collecteurs qu'on pose dans l'eau et ils ont trouvé que cette matière en fait qui puisse ne pas se dégrader sous l'eau et donc du coup pouvoir y rester plusieurs mois en étant colonisé, mais en même temps en se dégradant pas, donc avec les tempêtes et des forts courants, il arrive que ça se détache et que ça se retrouve sur nos plages.
Et oui, ça c'est dommage. Est-ce que ça pourrait pas être remplacé par la même matière que des dessous de peau, des céramiques, des choses comme ça, en terre cuite, ou c'est pas possible?
Je pense qu'il doit y avoir des recherches qui sont faites à ce sujet. Après, je pense que c'est aussi dans le rendement, puisqu'on parle aussi économiquement parlant.
Comme souvent, c'est la question des coûts.
Et voilà, Moi, je ne veux pas lancer une polémique, mais c'est une question de simple plagiste de base. On dit, tiens, c'est dommage que les outils utilisés par des gens qui utilisent l'océan pour vivre, ils scannent en retour.
Complètement, mais je pense que c'est aussi une question... où il faut creuser, et je pense que beaucoup de chercheurs sont sur cette recherche du matériau parfait pour avec la balance de captage et en même temps d'essayer de respecter au maximum l'environnement.
Oui, ben on compte sur vous du coup, Laetitia. Et oui, parce que vous allez passer de l'autre côté de la barrière, partie des gens qui
bientôt.
Et oui, qui gardent la qualité, qui est garante de la qualité des océans et de notre vie à nous, puisque c'est indissociable. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire.
Non, bien sûr.
Voilà, et pas juste pour manger des poissons au port, mais voilà, c'est très important dans le cycle de la vie de la Terre. La mer, il paraît que la plupart des espèces en viennent d'ailleurs.
Complètement.
On doit être tous cousins, si on a tous des ancêtres éponges, ou quelque chose du genre. Je crois qu'on a tous des ancêtres communs. Oui, voilà, bon.
L'ancêtre commun de tous les êtres vivants, il s'appelle Lucas.
Oui, c'est vrai, on lui a donné un nom. Ouais,
ouais, je ne savais pas.
Oui, oui, on est une sorte de grande masse gigantesque qui va faire des centaines de kilomètres, une sorte de blob, voilà, encore un peu indéfini. Oui, oui, c'est vrai qu'on l'a déterminé avec la génétique, on peut faire des calculs. Ouais.
Exactement.
Très bien. Eh ben, écoutez, si on n'a plus rien d'autre à dire, on va se séparer sur cette note-là.
Peut-être un petit mot. Oui, parler aussi des journées du gouffre de Hugo Verlhomme. Voilà, c'est pas organisé par notre club, mais c'est vrai, ce que fait Hugo, c'est vraiment génial à Cabreton. C'est gratuit.
Oui.
Et régulièrement, il organise donc ces journées du gouffre, car nous avons ce gouffre de Cabreton qui est assez magnifique et assez méconnu, puisqu'il est sous l'eau et qu'on ne le voit pas.
C'est vrai, oui.
Et Cabreton, d'ailleurs, est jumelé avec Nazareth. Effectivement, il y a cette vague géante qui est là-bas, et justement, c'est un peu la même formation géologique. Ouais.
Et
la dernière petite chose aussi, c'était d'avoir un hommage pour une monitrice qui s'appelle Maëlys, qui est tragiquement décédée la semaine dernière. Voilà, je voulais donner un petit hommage et pour dire qu'effectivement, le club va continuer et poursuivre toutes ces œuvres, je dirais, parce qu'elle était aussi dans la biologie, elle était aussi dans la formation, elle était vraiment très engagée. Voilà, nous continuons fort en pensant à elle pour le club et pour toute sa famille.
Très bien, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'en avoir parlé. On va se quitter sur ça. Passez une bonne journée. Puis bon,
merci à tous.
Bon retour à l'eau. Hein.
Merci, voilà. Thierry. Merci
beaucoup.
Tous
au revoir.
Laetitia.
Au revoir, tous les trois. Au revoir.